Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Le rapport annuel d'Amnesty International est sorti cette semaine et il n'est pas tendre avec la situation des droits humains dans le monde en cette période de pandémie. La crise sanitaire a en effet révélé les inégalités systémiques massives que subissent les minorités, mais aussi le personnel de santé et les femmes. Le rapport indique que le Covid-19 a été instrumentalisé par les dirigeants qui l'ont utilisé pour intensifier la répression des droits humains, notamment au Moyen-Orient et au Maghreb. Nous entendrons à ce sujet Aymeric Helluin, chargé de plaidoyer armes à Amnesty France. Quant à Donatella Rovera, elle explique depuis Tunis que 10 ans après leur émergence, les printemps arabes impactent toujours la situation sociale et les libertés des populations dans les pays qui en ont été le théâtre. À suivre la revue de presse, regard croisé sur Israël et monde arabe, avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire. Bonjour Aymeric Helluin.
Bonjour Éric Bataillon.
Responsable de plaidoyer armes à Amnesty International. Votre organisation sort cette semaine son rapport annuel sur la situation des droits humains dans le monde. Et bien entendu, un large chapitre est consacré à la région du Moyen-Orient et du Maghreb. Alors cette année, disons entre mars 2020 et mars 2021, a été marquée par la pandémie du coronavirus. Cela a-t-il eu un impact sur le respect des droits humains dans la région ?
Alors oui, clairement. Clairement, on peut le dire. Alors que ces pays de la région Moyen-Orient, Afrique du Nord, connaissaient déjà un bilan en termes de violation des droits humains qui était critiquable, la pandémie n'a fait que renforcer dans certains cas, voire même développer des comportements allant à l'encontre du respect des droits de l'homme. Dans un certain nombre de pays, des lois ont été adoptées, par exemple, comme en Algérie, pour faire taire tout propos dissident lié à la pandémie et à la façon de la gérer. Vous avez des médecins qui se sont mobilisés, comme en Tunisie, pour dénoncer le manque de moyens. Dans d'autres pays aussi, et dans certains de ces pays, il y a eu une répression exercée contre ceux qui voulaient critiquer la mauvaise gestion de la pandémie. Ça a été le cas en Iran, par exemple. Vous avez également des pays comme en Égypte, où les personnes ont dû continuer à travailler sans aucune protection, avec une situation économique en plus difficile. Donc cela a contribué à alourdir le bilan des droits de l'homme. Et par ailleurs, vous avez des pays qui, dans ce contexte-là de pandémie déjà, en ont profité pour, par exemple, comme au Maroc, faire taire des voix dissidentes en utilisant des logiciels espions, notamment le fameux logiciel Pegasus développé par la société israélienne NSO Group. Donc on a un défenseur des droits de l'homme, un journaliste qui, avec ce logiciel, ont fait l'objet de poursuites, d'une répression. Donc oui, clairement, disons-le, la pandémie a été l'alibi pour beaucoup de pays de la région pour réprimer les droits de l'homme.
Justement, est-ce que certains pays de la région ont été tentés de réduire les espaces de liberté publique et d'expression pendant cette pandémie ?
Oui, tout à fait. Il y a eu un certain nombre de pays, par exemple, où aujourd'hui, on le sait tous, les réseaux sociaux sont l'un des moyens mondiaux les plus répandus pour communiquer, s'exprimer. Et vous avez un certain nombre de pays où, sur les réseaux sociaux, Facebook, par exemple, des gens ont été inquiétés, poursuivis pour avoir, soi-disant, fait circuler des rumeurs sur la gestion de l'épidémie. C'est notamment le cas de l'Égypte. C'est également le cas du Liban, où vous avez des journalistes qui ont été inquiétés, des membres de la population civile, simplement, et qui ont fait l'objet de poursuites.
Précisément, est-ce que les acteurs sociaux, notamment les défenseurs des droits humains, ont été particulièrement visés pendant cette année 2020-2021 ?
Oui, clairement, on a des défenseurs des droits de l'homme qui partout ont été réprimés. On a évoqué le cas du Maroc, mais c'est également le cas, encore une fois, de l'Égypte, dont le bilan en matière de protection des droits de l'homme est catastrophique, et qui avait procédé notamment à l'arrestation de 3 membres d'une ONG, et qui, grâce à la mobilisation internationale, ont été relâchés. Donc oui, c'est un travers absolument catastrophique, ignoble. C'est-à-dire qu'on cherche, encore une fois, à faire taire ceux qui veulent défendre les libertés.
Aymeric Helluin, peut-on parler de recours disproportionné à la force lorsque, par exemple, il y a des manifestations populaires ? C'était le cas, par exemple, en Irak, au Liban ou en Libye.
Oui, alors clairement, on est confronté dans ces pays à des situations de recours excessif à la force. Pourquoi ? Parce que dans le cadre de manifestations, que vont faire les forces de sécurité ? Eh bien, elles vont tirer à balles réelles. C'est ce qui s'est produit en Libye. Il y a eu quelques manifestations qui ont eu lieu, pas autant que dans d'autres pays. la situation en Libye fait que manifester est un peu compliqué comparé à d'autres pays. Mais là, donc, les forces de sécurité ont tiré à balles réelles. Au Liban, on a eu un recours excessif à la force, au moyen de grenades lacrymogènes, de balles en caoutchouc. D'ailleurs, il faut que ça soit clair dans l'esprit des gens. Quand on parle de recours excessif à la force, pour que ça parle réellement, il faut considérer que les armes ont été utilisées à mauvais escient pour blesser, faire mal, voire, dans certains cas, tuer. Dans le cas du Liban, clairement, l'utilisation, par exemple, de balles en caoutchouc a été utilisée de façon à blesser et à faire peur aux gens. Ce qui s'est passé est assimilable à des actes de torture. Quand vous faites en sorte de tirer quasiment à bout portant des balles en caoutchouc sur des individus, alors que ce n'est pas le rôle de balles en caoutchouc, donc d'armes à létalité réduite, vous ne faites que contribuer à la violence armée et à infliger des violations des droits de l'homme. Donc oui, dans un certain nombre de ces pays, notamment l'Irak. L'Irak également. L'Irak a connu des manifestations importantes et avec l'utilisation de munitions de type militaire, des grenades lacrymogènes de gros calibre et des munitions de tir à balles réelles.
Est-ce qu'on est dans des situations qui s'approchent de la situation actuelle en Birmanie ?
Dans certains cas, on pourrait le considérer. Il y a, concernant le Liban, par exemple, clairement, le Liban a connu un certain nombre de manifestations pendant plusieurs mois, de octobre 2019 à la fin 2020. Et nous, ce qu'on a noté, c'est qu'il y avait clairement une politique qui avait été mise en place, délibérée, de tirer, dans certains cas, pour blesser, voire tuer. Mais au Myanmar, on est sans aucun doute dans un cran supérieur où on a une institution militaire dont le rôle aujourd'hui est d'écraser la population civile et d'écraser la dissidence exprimée par la population civile visant à contester le coup d'État militaire de façon à ce qu'elle ne se relève pas. Donc aujourd'hui, tout est mis en œuvre en utilisant des moyens militaires, mais aussi des armes plutôt de maintien de l'ordre, à faire taire dans le sang toute opposition, que ce soit des hommes, des femmes, des enfants. Amnesty International a documenté le fait que même des enfants avaient été pris pour cible. Donc on est encore dans un cran supérieur.
Alors votre rapport note aussi une impunité des forces de sécurité. Cela concerne quel pays précisément ?
On va penser notamment au Liban, à l'Irak, à la Libye aussi. En fait, ce qui se passe, c'est que généralement, lorsqu'il y a des violences qui sont constatées avec des violations des droits de l'homme et qu'il y a tentative, par exemple, comme au Liban, de faire entendre justice pour que les responsables de ces violences soient poursuivis, il ne se passe rien. Il y a eu 40 plaintes déposées, par exemple, au Liban suite aux manifestations intervenues d'octobre 2019 à mars 2020. Il ne s'est rien passé. La plupart, soit des personnes qui ont fait l'objet de ces plaintes n'ont pas été entendues, les dossiers ont été classés. On parle d'actes de torture, on parle de violations graves des droits humains. Donc c'est extrêmement grave. C'est-à-dire que l'impunité accordée aux forces de sécurité va les conforter à recommencer parce qu'elles sont protégées. Et en même temps, les victimes qui, elles, ont fait l'objet de ces violences ne sont pas reconnues en tant que victimes. Et quand, par exemple, vous avez perdu un œil, comme ça a été le cas au Liban pour un certain nombre de personnes, comment vous faites pour vous reconstruire ? C'est extrêmement compliqué. Donc il est impératif aujourd'hui que les violences, les violations des droits de l'homme soient reconnues, que les coupables soient poursuivis et qu'il y ait une justice pour les victimes.
Donc il faut absolument documenter lorsqu'il y a ce genre de fait.
C'est impératif. La documentation, que l'on parle de défenseur des droits de l'homme, que l'on parle de recours excessif à la force, que l'on parle d'atteinte à la liberté d'expression, il faut documenter tout ça. Et c'est de l'intérêt d'un rapport comme celui d'Amnesty International, où tous les ans, on va expliciter la situation dans un certain nombre de pays, le plus grand nombre possible de pays. Aujourd'hui, on est à 149 entrées. La France, d'ailleurs, n'est pas épargnée. Et il faut le rapporter pour que ça ne tombe pas dans les oubliettes. Parce que la plupart des gens qui vont chercher à obtenir justice n'ont pas forcément les moyens d'une organisation comme Amnesty International pour se faire l'écho dans les médias, auprès des décideurs politiques, comme quoi il faut changer la situation. Donc c'est notre rôle que d'être le porte-parole de ceux qui n'ont pas accès à une parole publique.
Alors votre rapport documente aussi des violations commises lors des conflits armés. Quel type de violations précisément avez-vous noté ?
En général, on parle de crimes de guerre, que ce soit par exemple en Syrie, au Yémen, en Libye. Ce sont en général, enfin, malheureusement souvent, des bombardements indiscriminés, donc des frappes indiscriminées, disproportionnées, où intentionnellement on va viser des cibles avec des civils à côté. Donc on sait qu'il y a un risque que les civils soient impactés, ou alors on vise délibérément et intentionnellement ces civils, dans certains cas, directement. Dans le cas yéménite, par exemple, une ONG, Yemen Data Project, qui fait un travail d'archivage considérable, qui a documenté en décembre 2020 plus de 23 000 frappes. Et il y a presque 8 000 cibles qui ont été documentées comme ne correspondant à aucune cible militaire légitime, quand elle documentait en même temps près de 7000 cibles qui étaient des cibles civiles. Donc on le voit, il y a une tendance aujourd'hui à pratiquer la guerre de façon à impacter directement les civils. Ça a été le cas en Syrie. On voit des hôpitaux qui ont été pris pour cible par les forces en présence. En Libye, on a vu des bombardements, évidemment. On a vu aussi également des exécutions extrajudiciaires, des disparitions forcées, des détentions arbitraires. La guerre s'exprime dans toutes ses horreurs, en général au moyen d'armes lourdes, d'armes explosives à large impact. C'est d'ailleurs pour ça que nous, on a rejoint le travail d'autres ONG qui se sont mobilisées depuis plusieurs mois maintenant pour faire interdire l'utilisation d'armes explosives à large impact. Parce qu'aujourd'hui, là, on constate que les bombardements sont faits avec des explosifs, enfin des moyens qui ne sont pas adaptés à la guerre, qui est une guerre aujourd'hui urbaine, très souvent, comme c'est le cas en Syrie ou dans certains cas au Yémen. Donc nous dénonçons l'ensemble de ces pratiques qui sont des violations du droit international humanitaire et qui, je le rappelle, ont justifié la création de la Cour pénale internationale. Cette Cour pénale internationale qui a été créée pour juger les pires crimes du droit international. Ces pires crimes, ce sont en général les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, crimes de guerre que l'on retrouve en Syrie, que l'on retrouve au Yémen, que l'on retrouve en Libye. Et donc il faut continuer de nous mobiliser pour les faire taire.
Merci Aymeric Eloin.
Merci Éric Bataillon.
Aymeric Eloin est donc le responsable du plaidoyer armes à Amnesty France. Donatella Rovera, elle, est conseillère sur les questions de crise à Amnesty International. Depuis Tunis, elle explique que les printemps arabes de 2011 ont toujours un impact sur la situation des droits humains dans la région.
Oui, certes, l'impact est énorme, justement, dans des pays comme le Yémen, la Syrie, la Libye, l'Égypte et la Tunisie. Et d'autres, les conséquences sont là aujourd'hui. Dans les cas extrêmes comme la Syrie et le Yémen, les conflits qui ont suivi les mouvements de protestation et les changements qui sont intervenus suite à ces mouvements de protestation, comme notamment au Yémen, les conséquences de ces conflits restent là au quotidien dans la mesure où c'est des conflits qui continuent. Dans des pays comme l'Égypte où les mouvements de protestation dans le contexte du printemps arabe n'ont pas entraîné de conflits armés, ont entraîné un changement de régime, mais la situation aujourd'hui est extrêmement, extrêmement difficile. Les restrictions aux libertés, les atteintes aux droits de l'homme sont très répandues et gravissimes au quotidien. La Tunisie, qui a été le premier pays où les mouvements de protestation ont commencé, vient de commémorer les 10 années depuis ce moment. C'est peut-être le pays où la situation qui a suivi les mouvements de protestation en 2011 est moins grave, mais au cours de la dernière année, il s'est vérifié un recul au progrès qui avait été enregistré dans les années précédentes. Au début de cette année, il y a eu des arrestations de masse jamais vues pendant tout au long des derniers 10 ans, des atteintes aux droits de l'homme envers ceux qui protestaient et envers les représentants, les militants de la société civile sont devenus quelque chose de plus en plus fréquent et donc énormément reste à faire. Mais on peut dire que dans chacun des pays qui ont été marqués par les mouvements de protestation en 2011, les vagues, les répercussions restent aujourd'hui très visibles.
Nous retrouverons Donatella Rovera samedi prochain pour un point plus précis de la situation des droits humains dans les pays du Moyen-Orient et du Maghreb.
Orient Hebdo sur RFI.
Nous lisons maintenant la presse de la semaine. Bonjour Alexandre Bouchanti.
Oui, bonjour.
Correspondant au Caire. Et bonjour Michel Paul.
Bonjour.
Correspondant à Jérusalem. Alexandre, la crise des eaux du Nil continue à faire la une de nombreux journaux arabes.
Oui, tout à fait, parce que la réunion tenue au Congo sous l'égide de l'Union africaine a échoué à cause de l'intransigeance éthiopienne, titre les journaux arabes. Des journaux qui précisent qu'Addis Abeba a refusé tout accord préalable au remplissage du barrage de la Renaissance, qui prendrait en considération les pays situés en aval du Nil bleu, c'est-à-dire le Soudan et l'Égypte. Les journaux indiquent que l'Éthiopie veut procéder à un second remplissage massif du lac de retenue du barrage, ce qui est perçu comme une menace par l'Égypte et le Soudan. Une menace sur la quantité d'eau parvenant à quelque 150 millions de Soudanais et d'Égyptiens. Une menace contre laquelle le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi a de nouveau mis en garde en indiquant que l'Égypte avait les moyens de défendre l'eau des Égyptiens.
Procès Netanyahou et formation d'un nouveau gouvernement sont à la une de vos journaux, Michel Paul.
Éric, l'ensemble des médias fait le rapprochement entre ces deux événements. Le procès dans le tribunal de district de Jérusalem qui se déroule dans la partie orientale de la ville et de l'autre à l'ouest, le défilé des responsables de partis pour recommander au président israélien un candidat pour mettre sur pied un gouvernement stable, une mission qui semble impossible à ce stade du moins. Alors Netanyahou contre-attaque. Dans une allocution télévisée, il a accusé le parquet israélien de mener une chasse aux sorcières contre lui. C'est une forme de coup d'État institutionnel, ajoute-t-il. L'accusé accuse, explique Yedioth Aharonot. Le quotidien ajoute que le prochain gouvernement dirigé par Netanyahou nommera un nouveau procureur général qui enterrera les accusations dirigées contre lui. Tout se fera le plus tranquillement du monde, dans le respect des lois, conclut Yedioth Aharonot. Et pour Israël Hayom, quotidien au fort tirage, marqué à droite, on se dirige vers un gouvernement de droite, ou alors une cinquième campagne électorale.
Michel, vos journaux font état d'une certaine tension qui transparaît entre Israël et les États-Unis.
Oui, la presse fait de plus en plus état d'une inévitable collision frontale entre Israël et l'administration Biden. Plusieurs commentateurs font remarquer que le nouveau patron de la Maison-Blanche prend le contre-pied systématique de son prédécesseur et défait une à une toutes les décisions qu'il avait prises. Dernière en date, la reprise de l'assistance économique américaine aux Palestiniens et notamment à l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Nous pensons que cette agence ne devrait pas exister sous sa forme actuelle, proclame un diplomate israélien, abondamment cité par les journaux ici. Autre sujet de controverse, la reprise de la construction israélienne dans les territoires occupés, et surtout bien sûr l'accord sur le nucléaire iranien. Ce n'est qu'une question de temps, estime un éditorialiste.
Alexandre, vos journaux accordent une très large place aux préparatifs du Ramadan qui commence la semaine prochaine.
Oui, et une bonne partie des articles concernent les mesures de prévention qui sont prises dans divers pays arabes pour empêcher une flambée du coronavirus durant ce mois de jeûne. Restrictions sur les prières, sur les tables de la miséricorde, des tables qui rassemblent des foules nourries gratuitement, mais aussi sur les écoles et les universités. Un mois qui inquiète d'autant plus que les nouveaux cas de Covid-19 sont déjà en hausse dans la plupart des pays arabes, des pays qui, en dehors des Émirats et de quelques pays du Golfe, ont très peu ou pas du tout vacciné. L'autre sujet qui retient l'attention des journaux, ce sont les fameux feuilletons du Ramadan. Une manne pour les journaux, puisque les chaînes de télé se font une concurrence acharnée à travers des pages entières de publicité.
Oui, et puis la parade des momies au Caire, dont nous parlions la semaine dernière, Alexandre, continue de susciter des articles dans la presse égyptienne.
Oui, le journal El Watan, par exemple, publie une série de dessins inspirés par la parade des 22 momies royales. On voit notamment une princesse serrant dans ses bras le dieu des morts, Anubis, qui prend la forme d'un chien noir. Il y a aussi le dessin d'une danseuse aux vêtements évanescents, un hommage à la première des prêtresses qui précédait le convoi des momies. Une beauté pharaonique à laquelle se sont intéressés les journaux pour découvrir que c'était une top modèle arménienne d'Égypte, Miral Mahilian.
Et pour terminer, Michel, l'image de cette semaine.
Eh bien, c'est la photo d'Ilan Yeshua, le premier témoin en charge dans le procès de Netanyahou. Il affirme avoir été contraint de publier des informations en faveur du premier ministre israélien dans Walla, le portail d'information qu'il dirigeait. Et il donne un détail anecdotique. Nous le surnommions Kim, en référence au dictateur nord-coréen.
Affaire à suivre. Merci Michel, merci Alexandre. Orient Hebdo, une émission de RFI réalisée par Mathias Golshani, que vous pouvez réécouter sur le site de la radio www.rfi.fr ou en podcast sur notre application Pure Radio. À demain, même heure. Prenez soin de vous.